Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Roxane Lundy, membre de Génération, candidate de l'Union de la Gauche au municipal à Beauvais. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans un peu moins d'une semaine, les transports en commun seront bloqués en raison d'une grève des cheminots qui veulent protester contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est une réforme qui vous inquiète? Est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève?
Oui, c'est une réforme qui est extrêmement inquiétante parce que quand on parle des retraites, déjà on parle de la dignité de manière générale et de la solidarité intergénérationnelle et puis notre capacité aussi à penser sur le temps long, notre dignité, donc la manière dont on va pouvoir vivre. Donc cette réforme, elle m'inquiète beaucoup parce que pour mettre les choses au clair, parce que c'est toujours très compliqué sur ce genre de réforme technique, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va avoir une part du gâteau qui va être figée pour les dépenses de retraite, donc à 14% du PIB, avec un nombre de personnes de plus en plus importantes. Donc on imagine que les parts vont rétrécir pour le gâteau. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tous être perdants avec cette réforme des retraites. Et c'est, il faut le dire, le plus grand plan d'appauvrissement de la population depuis la Seconde Guerre mondiale qui va avoir lieu. Donc dans un contexte social déjà très compliqué, où il y a beaucoup de difficultés pour s'en sortir à la fin du mois et encore plus pour les retraités, eh bien on va encore accroître le niveau de pauvreté dans notre pays.
Alors, vous nous dites que les Français vont devenir plus pauvres avec cette réforme des retraites. Et en même temps, la réforme, elle n'est pas totalement annoncée, Roxane Lundy.
Tout à fait, la réforme n'est pas totalement annoncée, mais c'est vraiment le principe même de la retraite par points, qui est une réforme donc qui a été annoncée, c'est-à-dire pour 1 euro cotisé, pour 1 euro touché, 1 euro cotisé. Ce principe même fait que de toute manière, on sait qu'il va y avoir une baisse du régime des retraites et de leur montant. Alors pour vous dire, je le citerai qu'une fois, mais François Fillon en parlait lui-même pendant la dernière élection présidentielle de la réforme des retraites, en disant que c'était simple, la retraite par points, c'était simplement une astuce pour ne pas dire qu'on allait baisser le niveau des retraites, mais qu'on allait de toute manière baisser le point, et donc qu'on allait baisser le niveau des retraites. Donc même sans en avoir pour l'instant tous les détails, on sait que dans l'esprit même, cette réforme a vocation à faire baisser le niveau de dépenses, et donc à baisser le montant de nos retraites.
Donc la question, c'est pas seulement les régimes spéciaux, c'est la retraite de tout le monde. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas que les cheminots qui seront impactés.
Bien sûr, on va tous être impactés par cette réforme. Et je pense que là aussi, c'est très important de le dire. Parce que la réforme la mobilisation qu'il va y avoir le 5 décembre, d'ailleurs, c'est une mobilisation générale. Il y a beaucoup de militants syndicaux qui disent qu'ils vont se mobiliser pour cette journée, que c'est une journée absolument décisive. Tout simplement parce que ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est que ce serait finalement une réforme qui viserait à mettre fin à une inégalité et que les régimes spéciaux seraient une forme d'inégalité. Non. Déjà, il faut le dire, les régimes spéciaux, ce sont des droits qui sont accordés dans des conditions particulières parce que, tout simplement, les conditions de travail font qu'on a dû aménager ces régimes spéciaux.
Ce sont des conventions collectives.
Ce sont tout à fait des conventions collectives. Et à côté de cela, il faut bien avoir en tête que cette réforme, c'est du perdant-perdant. Personne ne sortira gagnant de cette réforme des retraites, si ce n'est celles et ceux qui finalement n'ont pas besoin d'avoir une retraite parce que ils ont suffisamment les moyens pour cela.
Alors j'ai une question peut-être naïve, Roxane Lundy, mais pourquoi le président Macron veut-il absolument faire cette réforme des retraites s'il n'y a pas de gagnant au final ?
Parce que M. Macron, notre président de la République, est un président libéral, qui s'est toujours assumé comme étant un libéral conservateur. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'il mette en œuvre une réforme qui est de toute manière demandée par le MEDEF et par un ensemble, il faut le dire, de patrons depuis un certain nombre d'années. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Donc Macron va faire en sorte de faire aboutir l'un des grands rêves de la droite conservatrice traditionnelle depuis des années.
Roxane Lundy, dans la ville où vous êtes candidate au municipal, Beauvais, les personnels soignants sont en grève à l'hôpital, vous les soutenez également ?
Bien sûr, et là aussi on touche au cœur même de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre pays. Moi je veux le dire, il y a des personnes qui se mobilisent, qui sont là tout simplement pour prendre soin de nous. C'est ça, les personnels soignants. Quand ça ne va pas, on est très heureux de savoir qu'on peut aller à l'hôpital et que des personnes ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leur temps et leur énergie pour prendre soin de nous, pour faire en sorte qu'on aille mieux. Et on arrive dans un système où finalement même les personnels soignants sont en grève. Et oui, nous à Beauvais, c'est une grève illimitée qui a été décrétée par les personnels soignants. Tout simplement parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens pour continuer à assurer notre prise en charge.
Et ça, c'est dramatique. Ils ne sont pas assez nombreux, notamment aux urgences.
Alors, il y a la question des moyens humains et il y a la question des moyens financiers. Et là aussi, je veux le dire, quand on a des personnels soignants qui nous expliquent que, alors, ils font un nombre d'heures inimaginable, qui ne s'en sortent plus, que c'est difficile pour eux, tout simplement, d'arriver à prendre soin de nous, et qu'en plus de ça, ils n'ont même pas les moyens matériels pour mener à bien leur mission, comment rester insensible? Et moi, je lance un appel. Il y a déjà eu une mobilisation des personnels soignants, mais il est important que partout dans le pays, comme nous le faisons à Beauvais, nous soutenions ces mouvements de grève illimitée, parce que c'est impensable ce qui est en train de se passer. Et ça vaut autant au niveau local, parce que voilà, quand on est maire, on est au conseil de surveillance de l'hôpital et on doit exprimer notre solidarité. C'est la première des choses à faire. Et la deuxième chose, c'est aussi de mener le combat au niveau national pour sortir de ces politiques d'austérité qui sont à l'origine autant de cette réforme des retraites qui va nous appauvrir que de ce manque de moyens dans nos écoles, dans nos hôpitaux et finalement dans tout ce qui aujourd'hui fait vivre le service public.
Roxane Lundy, la semaine dernière, il y a eu une grande marche contre les violences faites aux femmes. C'était à Paris, mais il y a eu d'autres marches en région. Vous étiez au rassemblement organisé à Beauvais. Que pensez-vous des annonces du gouvernement pour lutter contre les violences conjugales?
Alors, avant toute chose, je tiens à saluer, et là, en tant que militante féministe depuis des années, je me réjouis de voir qu'il y a une mobilisation de plus en plus importante sur ces questions. Parce que la question des violences faites aux femmes, c'est aussi la question de manière générale des droits et de la place qui nous est faite dans la société. Donc c'est absolument central. Voir autant de jeunes femmes, autant de jeunes même de manière générale, et une si grande partie de la population soutenir ce mouvement, c'est quelque chose d'incroyable, qui continue depuis MeToo aussi.
Il ne faut pas que ça s'arrête à la fin du Grenelle.
Bien sûr, c'est un mouvement de fond qui est en train de se passer et qui va nous conduire vraiment à construire une société de l'émancipation et à conquérir de nouveaux droits. Donc moi vraiment, je m'en satisfais. Ensuite, nous avons un secteur associatif qui aujourd'hui est très seul. Il faut le dire. C'est-à-dire que nous avons ces mobilisations extraordinaires auxquelles nous participons massivement. Et à côté de ça, nous avons des associations qui réclament des moyens. Parce que quand il s'agit de droits des femmes, on a souvent de grandes annonces. On nous dit que l'égalité femmes-hommes est une priorité de ce quinquennat. Et à côté de cela, il n'y a jamais un euro qui est mis sur la table. Or, il faut le rappeler, nous avons besoin de budget. Parce que sans budget, nous ne pouvons rien faire aujourd'hui. Sinon, ce ne sont que de grandes annonces. Donc les résultats de ce Grenelle ont été annoncés. Toutes les associations, dont nous toutes, dont Osez le Féminisme, et toutes les associations féministes qui ont été invitées à y participer, ont dénoncé le manque de moyens en disant tout ça pour ça, finalement. Toute cette mobilisation pour qu'on nous annonce qu'il n'y a pas l'argent qui avait été annoncé qui serait mis sur la table. Donc c'est une grande déception à ce niveau-là, mais le combat continue.
Alors si vous êtes élu maire de Beauvais en mars prochain, vous lutterez concrètement contre ces violences dans votre ville ?
Tout à fait. Je pense que c'est très important aussi d'avoir en tête que quand il s'agit de droits des femmes et de lutte contre les violences, qu'elles soient sexistes et ou sexuelles, puisque bien sûr nous comptons un grand nombre de violences sexistes et sexuelles, il est important aussi de penser que la responsabilité des politiques est centrale. Nous pouvons et nous devons agir, c'est notre responsabilité. Donc au niveau local aussi, il y a des mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte de faire changer les choses. La première, bien sûr, c'est d'accompagner les dispositifs qui existent et de... En tout cas, faire connaître et de sensibiliser aux campagnes qui existent aujourd'hui, qui sont mises en œuvre par le secteur associatif pour lutter contre ces violences. Et puis, il y a tout un travail à faire pour vraiment aider et accompagner le secteur associatif sur le terrain et créer des synergies. Donc moi, ce que je propose, c'est que nous menons campagne en tout cas sur ces sujets, et si je suis élue, je veillerai à ce qu'une maison des femmes soit créée, tout simplement pour faciliter la prise en charge des femmes victimes de violences sexistes et ou sexuelle, et aussi pour créer vraiment des synergies qui permettent de faire progresser les droits des femmes au niveau local et de manière plus générale dans notre société.
Un autre sujet d'actualité avant de parler de Beauvais plus spécifiquement, Roxane Lundy, le CROUS a décidé de geler les loyers des étudiants pour l'année 2020 suite à l'immolation d'un jeune homme devant le CROUS de Lyon qui voulait dénoncer la précarité que vivent les étudiants. La ministre de l'Enseignement supérieur a mis en place un numéro vert pour répondre aux demandes des étudiants. Est-ce que c'est suffisant? Je vous vois sourire, même si évidemment c'est un sujet tragique.
C'est très grave. Non, j'ai pas envie d'en sourire. Ce serait risible si c'était pas si tragique finalement. Déjà, est-ce qu'il faut attendre d'en arriver là? C'est dramatique que des jeunes puissent aujourd'hui imaginer s'immoler par le feu pour tout simplement lancer un appel à l'aide et dire qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir à la fin du mois. Mais bon sens, le gouvernement découvre qu'il y a aujourd'hui de la précarité étudiante et que quand on n'a pas de salaire et qu'en plus on doit mener des études et que souvent on cumule en plus avec des boulots, c'est pas facile de s'en sortir. Eh bien, vraiment, faut-il en arriver là pour que l'appel à l'aide soit entendu?
Donc, numéro vert, vous pensez que ça n'est pas suffisant?
Je pense que déjà, c'est extrêmement grave d'en arriver là, mais qu'en plus, la réponse n'est pas du tout à la hauteur. C'est comme pour les violences sexistes et sexuelles, nous parlions de féminicide juste avant, où un numéro vert a été mis en place. Ça ne peut pas être la seule solution. Il y a tout un travail de prise en charge aujourd'hui qui doit être fait. Et pour la jeunesse, il est essentiel qu'on travaille sur les conditions d'émancipation des jeunes. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai fait savoir que j'étais en faveur de développer le pouvoir d'achat chez les jeunes, notamment avec un revenu universel qui concernerait les plus jeunes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a pour permettre à des jeunes de mener leurs études sans s'inquiéter à côté des conditions de vie, tout simplement. Donc, moi, je considère que c'est extrêmement grave et que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer, de même que le président ne l'avait pas prise, la mesure de la gravité de la situation, lorsqu'il a baissé les APL et qu'il a considéré que aujourd'hui, militer pour 5 euros d'APL à la fin du mois, vraiment, c'était indécent. C'est ça qui est indécent.
Ce vendredi a été marqué par de nouvelles marches des jeunes contre le réchauffement climatique à Paris et dans plusieurs villes de France. C'est un des sujets de préoccupation majeurs pour votre génération.
C'est un sujet qui nous habite au quotidien. Aujourd'hui, ce n'est pas anodin si la jeunesse se mobilise partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit au monde où les jeunes ne descendent pas dans la rue en demandant tout simplement à ce que soit prise en compte l'urgence climatique. Nous savons que si des décisions ne sont pas prises maintenant, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, qui est quand même sérieux sur la question, que si des décisions ne sont pas prises maintenant, c'est notre avenir à tous qui aujourd'hui est mis en danger. L'urgence climatique, nous la connaissons. Maintenant, encore faut-il que les responsables politiques puissent se montrer à la hauteur et vraiment prendre des décisions qui permettent d'inverser la courbe des choses et vraiment de recréer les conditions de l'espoir. Quand j'entends le nombre de jeunes qui disent tout simplement qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que c'est des raisons personnelles, mais qu'ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont plus confiance en l'avenir et qu'ils ne savent pas dans quel monde ils vont laisser les générations suivantes, c'est dramatique, c'est un appel que nous devons entendre. Donc aujourd'hui, oui, la mobilisation, elle se fait au niveau international de la jeunesse. Je la soutiens, j'en fais partie. Et puis, donc aujourd'hui encore, nous avions tout un groupe jeune de militants écolos qui se sont mobilisés à Beauvais. Moi, je les salue aussi en organisant une marche pour le climat. Je trouve que c'est une très très belle chose que de faire vivre ces revendications pour faire en sorte que les responsables politiques puissent l'entendre et prennent vraiment la responsabilité.
Roxane Lundy, vous êtes âgée de 24 ans et vous aspirez à diriger Beauvais, préfecture du département de l'Oise. On a connu quelques jeunes maires sous la 5e République. Je pense à Nicolas Sarkozy à Neuilly. J'imagine que ce n'est pas votre modèle. L'Association des maires de France a publié une étude qui montre que les élus locaux ont en moyenne 62 ans et sont à 83% des hommes. Vous avez donc décidé de faire mentir les statistiques. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette bataille électorale et pourquoi à Beauvais ?
Alors déjà, si vous ne connaissez pas encore la ville, venez la découvrir avec son patrimoine magnifique et puis une histoire dont on peut être particulièrement fier, dont on l'est au niveau local. Et ensuite, pourquoi décider de se battre pour une ville et de mener une bataille au niveau local? Je crois que peu importe la question de l'âge, peu importe toutes ces contingences, la priorité, c'est de savoir ce qu'on peut apporter aujourd'hui. De se dire que oui, nous avons notre mot à dire dans la construction de l'avenir. Parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui sont des décisions qui appartiendront finalement aux générations qui suivent. Le fait de prendre à bras-le-corps la transition écologique, c'est aussi permettre aux générations suivantes d'avoir été partie prenante dans la construction de cette révolution verte d'une certaine manière. Et donc, dans notre ville, plus que jamais, je pense que nous avons des choses à apporter, nous avons des choses à dire, nous, la gauche et les écologistes. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'apporter une alternative. Alors, sur un ensemble de questions, mais je sais qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir, mais sur toutes ces questions qui touchent à la vie quotidienne, aujourd'hui, moi, je lance vraiment un formidable appel à la jeunesse, d'abord, parce que oui, elle se mobilise pour le climat, mais il faut aussi qu'elle s'investisse en politique, parce que c'est là que nous pourrons faire changer les choses et faire bouger les choses, mais aussi à toutes celles et ceux qui, tout simplement, aujourd'hui, aspirent à autre chose et se disent qu'ils refusent d'assister, comme beaucoup, à finalement des décisions qui sont prises loin d'eux, qui ne semblent pas les concerner. Et je pense que dans notre ville, trop ont ce sentiment aujourd'hui, et faire ce choix de construire une alternative en mesure de gagner, et faire ce choix personnel, moi, de m'engager dans cette campagne, c'était aussi faire le choix de faire bouger les choses et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville pour les générations qui arrivent et pour l'avenir.
Alors, je signale que Radio Orient est très présente depuis de nombreuses années sur la bande FM à Beauvais. Tout à fait. Je salue donc les auditeurs de Radio Orient à Beauvais. Vous nous avez parlé du patrimoine exceptionnel de Beauvais. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette ville, notamment pour tous les auditeurs qui auraient envie d'y aller, parce que c'est une ville touristique aussi.
Bien sûr que c'est une ville touristique. Venez découvrir, si vous n'êtes pas beauvaisienne ou beauvaisien, venez découvrir cette ville, venez vous balader dans la cathédrale, découvrir cet incroyable cœur gothique, venez tout simplement vous balader dans ces rues qui aujourd'hui sont vraiment un joyau d'architecture. Alors je suis pas la seule à le penser, puisque si vous venez au Mudo découvrir nos collections d'art, vous verrez que de tout temps Beauvais est une ville qui a beaucoup inspiré les artistes. Mais c'est aussi cette ville à taille humaine, et je pense que c'est important de le dire, qui n'est pas qu'une ville touristique, une ville où vous aurez très vite envie de vous installer, parce que voilà, à taille humaine, c'est-à-dire une ville où il fait bon vivre, qui est à la fois dans ses paysages incroyables, qui peuvent être ces paysages du plateau Picard, du pays de Bray, mais aussi ces paysages qui tout simplement vous permettent aujourd'hui d'être dans une ville qui n'est pas faite de béton partout, et qui permet aussi d'envisager un avenir beaucoup plus végétal, et c'est aussi ce que nous voulons penser aujourd'hui. Donc venez construire avec nous l'avenir de cette ville, je pense vous serez charmés par son histoire et son architecture, et vous aurez surtout envie vous aussi de participer à construire son avenir.
Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi des habitants de Beauvais ? C'est une ville plurielle dans les origines sociales de la population ?
Oui, aujourd'hui, alors c'est une ville très mixte, puisque, je tiens à le rappeler, mais nous avons malheureusement un taux de pauvreté record, puisque plus de 25% aujourd'hui des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens vivent sous le seuil de pauvreté. Mais c'est aussi voilà, cette mixité sociale et culturelle selon les différents quartiers. Et je pense que de cette mixité naît une forme de richesse. Et c'est aussi ce que nous voulons bâtir, c'est-à-dire c'est une ville à taille humaine, mais c'est aussi une ville mosaïque, un territoire mosaïque, où chacun finalement se sent chez lui, malgré des différences qui peuvent exister malheureusement au niveau social. Et c'est aussi ça, l'enjeu au niveau local, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de créer du vivre ensemble et de faire dialoguer cet échange de culture, cet échange social qui peut exister, et de créer vraiment du lien social entre les différents quartiers et entre les différentes populations.
Vous parlez du taux de pauvreté, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de chômage à Beauvais. C'est une ville relativement proche de Paris, c'est un avantage ou bien un inconvénient parfois ?
Vous savez, alors on a une position un peu particulière, puisque nous avons une position dans la Picardie, qui est une région qui maintenant n'a plus la place qu'elle a pu avoir du fait de la fusion des régions. Et donc nous sommes une ville qui en effet est à proximité de Paris, mais qui est aussi à proximité de la Normandie, qui est à proximité d'Amiens aussi, et donc qui a tous les avantages sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire que oui, Paris, cette ville tentaculaire aujourd'hui, avec les qualités et les défauts qu'elle peut avoir, c'est quand même la capitale, mais qui a aussi les défauts inhérents à sa position, vous ne les retrouverez pas. C'est ce que je disais quand je parlais d'une ville à taille humaine. Et en même temps, tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est de réussir à faire en sorte que notre ville prenne à bras-le-corps la question de l'attractivité économique et de l'attractivité de manière générale. Comment est-ce qu'on fait pour construire ça ?
Ce que vous souhaitez, c'est attirer les entreprises pour que les habitants de Beauvais puissent travailler dans leur ville et non pas aller à Paris.
Nous avons bien sûr la question des flux pendulaires de personnes qui vivent à Beauvais et qui tous les jours font les allers-retours, que ce soit à Amiens ou que ce soit à Paris, que ce soit dans la région de manière générale, parce que oui, il est parfois difficile de trouver un travail dans la ville, ou aussi la question, il faut le dire, de l'attractivité économique. Et là, c'est exactement ce que vous dites, à savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir un tissu économique qui aujourd'hui permet de créer de l'emploi et qui permet aussi de créer de l'emploi stable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des conditions d'emploi, nous avons quand même un tissu industriel qui existe, mais qui soit capable de résister aussi aux grandes évolutions de la société. Et ça, je pense que c'est une question que beaucoup se posent dans un contexte où nos centres-villes sont pour beaucoup victimes, il faut le dire, des grandes mutations économiques qui peuvent exister. Et comment est-ce qu'on fait pour construire cette pérennité économique en faisant en sorte d'avoir véritablement des pôles économiques qui soient capables de résister à ces mutations pour créer de l'emploi. Ça, c'est essentiel.
L'invité de Pluriel est Roxane Lundy, membre de Génération candidate de l'Union de la gauche et des écologistes au municipal de mars prochain à Beauvais. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Roxane Lundy, membre de Génération, candidate de l'Union de la gauche et des écologistes au municipal à Beauvais. Alors, la ville est dirigée par une maire d'hiver droite, Caroline Cailleux. Elle est élue depuis 18 ans, elle est, si j'ai bien compris, compatible avec La République En Marche. Quel bilan faites-vous de son action au service des habitants de Beauvais, puisque vous aspirez à lui succéder ?
Alors avant toute chose, je pense que aujourd'hui, il est important quand on est responsable politique et quand on aspire à en tout cas devenir maire d'une ville, de prendre les choses sans démagogie. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus. Je pense que ce que nous voulons, c'est aussi écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville et donc tirer un bilan des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Avec, bien sûr, des désaccords politiques, vous pouvez l'imaginer, puisque c'est la raison même de la constitution de cette liste d'Union de la gauche et des écologistes dans notre ville. Je pense que la première chose qui, aujourd'hui, nous interpelle tous collectivement, parce que ça revient à chaque fois que dans les discussions qu'on peut avoir, c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup, c'est l'état du centre-ville. Alors, je vous parlais à l'instant des mutations économiques qui peuvent exister, mais je pense qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été faites par la municipalité actuelle et par Madame Cailleux, qui n'ont pas aidé à la situation de notre centre-ville, qui est victime de plein fouet, finalement, de la baisse d'attractivité.
Il y a des commerçants qui ont mis la clé sous la porte dans le centre-ville, comme dans de nombreuses villes de France.
Bien sûr, nous avons un centre-ville qui aujourd'hui est dans une situation compliquée, avec beaucoup de locaux vides, malheureusement, et en plus avec des commerçants qui doivent faire face à des fins de mois difficiles. Il faut le dire. Et alors c'est très important parce qu'un centre-ville, c'est aussi le cœur d'une ville, le cœur battant d'une ville. C'est aussi cet endroit de dialogue, d'échange et de lien social.
Donc ça, je pense que c'est essentiel. Il y a aussi et citoyen peut-être à faire passer puisqu'on nous parle du Black Friday toute la journée dans les publicités qu'on nous envoie par mail ou sur les ondes. Finalement, il faut toujours se tourner vers ces commerçants quand on peut, avant Noël par exemple.
Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Black Friday ces derniers jours. Là, je pense qu'il y a vraiment deux combats. Il y a le combat à mener au niveau local par des décisions pour soutenir au maximum les commerçants qui créent ce lien, qui sont nécessaires à une ville. Et il y a aussi le combat au niveau national. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de l'Union de la gauche et des écologistes dans la clarté, dans une double opposition, nous l'avons formulé dès le départ, à bien sûr la municipalité actuelle et à La République En Marche et à la droite au niveau national, puisque La République En Marche soutient aujourd'hui la maire sortante. C'est extrêmement important parce que le combat qui se porte sur ce Black Friday et sur les commerces de manière générale, c'est aussi un combat national et même international. C'est comment est-ce qu'on fait pour aller taxer ces pays, enfin il faut le dire, ces GAFA comme on dit, Google, Amazon, alors je parlerai surtout d'Amazon pour le Black Friday, parce que c'est particulièrement d'actualité, mais ces espèces de géants du numérique qui aujourd'hui ne payent pas leurs impôts, alors que les petits commerçants qui aujourd'hui sont nécessaires vraiment à l'attractivité d'une ville et à notre quotidien, eux sont soumis à l'impôt. Donc c'est aussi ce combat-là qu'il faut porter, et je pense que La République En Marche et le président de la République et le gouvernement devraient en faire une priorité, ça n'est pas le cas.
Roxane Lundy, vous êtes la candidate de l'Union de la gauche et des écologistes à Beauvais. Lors des européennes, on avait critiqué l'absence d'union de la gauche entre les différents partis, ce qui a conduit au mauvais score que l'on a vu au sein de la France insoumise, Génération, Parti socialiste, Parti communiste également. Votre force, c'est d'être soutenue par l'ensemble des forces de gauche à Beauvais.
C'est une force incroyable qui est faite à notre collectif aujourd'hui. Vous savez, quand on regarde les élections européennes, la gauche et les écologistes sont dans notre ville la première force politique. Ça n'a pas été le cas en termes d'élus au niveau européen à cause de la division. Donc je pense que ce feuilleton de la division, nous devons véritablement y mettre un terme. Et moi je suis particulièrement fière, nous sommes aujourd'hui une ville préfecture en plus, qui est l'une des seules en France je crois, à créer en tout cas ce que nous appellerons finalement une maison commune de la gauche et des écologistes.
Comment expliquer comment ça a fonctionné à Beauvais alors que ça ne fonctionne pas dans toutes les villes de France, cette union ?
Je dirais que la première chose, c'est une forme de bon sens collectif et d'envie réelle de se mettre au service d'une cause. C'est-à-dire que quand je parle d'union de la gauche et des écologistes, faut imaginer, c'est très large. Nous avons les radicaux de gauche, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, la France insoumise et Génération. Donc vraiment,
là, c'est tout l'arc
possible de la gauche, en effet, est réuni. Et cette forme de bon sens, on l'a trouvée en se disant que si nous partions unis, eh bien, nous étions en mesure de gagner. Et nous étions donc en mesure, concrètement, d'apporter au niveau local des solutions à la crise écologique. Et quand on voit, et moi je réinsiste là-dessus, l'ampleur des défis actuellement, la progression de l'extrême droite, quand on voit la bataille qu'il faut mener contre les discours racistes et haineux qui peuvent prospérer, quand on voit l'urgence écologique et climatique, quand on voit l'état d'augmentation de la pauvreté partout dans le pays, et en particulier dans notre ville, on s'est dit que tout simplement il fallait faire un choix qui soit un choix raisonné et rationnel. Et ce choix de l'union, c'est ce que nous avons fait. Et puis ça se construit finalement assez aisément, parce qu'on se retrouve dans les mêmes combats au niveau local.
L'extrême droite prospère dans votre ville, Beauvais ?
L'extrême droite prospère partout. Donc bien sûr, notre ville n'échappe pas à cette tendance, qui est une tendance nationale et même internationale. Il suffit de voir les derniers résultats dans tous les pays du monde.
Roxane Lundy, ce sera donc un combat droite contre gauche, avec l'extrême droite qui sera là peut-être pour tenter d'arbitrer. Est-ce que l'étiquette politique est importante dans ce combat municipal à Beauvais ? Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les habitants selon qu'on a une mairie de droite ou une mairie de gauche ?
Alors vous voyez, c'est vrai que je la trouve particulièrement pertinente cette question, parce que c'est aussi le film, le feuilleton et les questionnements qu'on a pu avoir ces derniers temps. Est-ce que la gauche et la droite, ça existe toujours quand on voit la déception et la défiance vis-à-vis de la politique de manière générale, puis les grands bouleversements qu'on a pu avoir ces derniers temps. Mais moi, je vous dirais que la première chose, c'est la question de la sincérité des convictions. C'est qu'on ne fera jamais mieux, la copie ne fera jamais mieux que l'original. Donc si vous voulez avoir des élus écolos, eh bien vous avez intérêt à élire des gens qui se battent vraiment pour l'écologie depuis des années. Et moi j'entends beaucoup le discours sur la sensibilisation des responsables politiques qui est nécessaire sur l'écologie, mais il y a aussi des politiques qui sont sensibilisés à cette question et qui en plus de l'être, en ont fait leur cheval de bataille finalement. Donc c'est ce qu'on fait au niveau local. Alors quelle est la différence entre une politique de droite et de gauche ? Quelle sera la différence à Beauvais ? Eh bien nous ne nous contenterons pas, en tout cas, de paroles quand il s'agit de transition écologique, quand qu'il s'agisse de la question de la mobilité, du développement des pistes cyclables, du vélo, d'autres formes de mobilité douce, qu'il s'agisse de prendre à bras le corps la réduction des inégalités et de ce taux de pauvreté qui, quand même, aujourd'hui est effrayant. Encore la question de la tranquillité publique. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des politiques qui fassent reculer l'insécurité dans notre ville ? Et puis de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour recréer une forme de dynamisme et de fierté qui prenne à bras le corps les grands enjeux de la période? Moi, je pense que tout cela, aujourd'hui, c'est la gauche qui le porte, le progrès.
Mardi prochain, ce sera la journée mondiale du handicap. Quels engagements prenez-vous pour aider à l'inclusion des élèves handicapés à Beauvais?
C'est une question absolument centrale que celle du handicap aujourd'hui, parce qu'elle cela touche à l'essence même de ce qu'est le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour créer de l'inclusion partout, là où, il faut le dire, il y a malheureusement, depuis toujours, des tendances à la distinction et à la stigmatisation. Donc cela passe par plusieurs choses. La première, c'est la question des bâtiments publics, qu'il s'agisse des écoles, qu'il s'agisse de tous les services publics. Comment est-ce qu'on fait en sorte, à chaque fois, d'avoir des politiques qui s'adressent également aux personnes qui pourraient être concernées par une forme de handicap. Mais pour les élèves, c'est particulièrement important, puisque à l'école, c'est là que se noue ce qui va être le rapport aux autres, de manière générale. Ça peut être très dur, les enfants à l'école, quand il s'agit de mettre en avant des différences. Donc comment est-ce qu'on fait pour mener des politiques d'inclusion qui montrent que ce qui peuvent être vécus comme des différences aujourd'hui, c'est aussi une richesse et une diversité. Alors la bataille, c'est aussi une bataille culturelle. Donc nous menons la bataille des mots, d'ores et déjà, et puis nous prenons un engagement, c'est celui de faire vivre l'inclusion dans nos écoles dès le début chez les tout-petits, quand il s'agit du handicap, bien sûr, mais vis-à-vis de toute forme de diversité et de différence.
Alors, est-ce qu'on peut parler de la manière dont vous faites campagne à Beauvais ? C'est une campagne de terrain. On a beaucoup dit que les maires étaient à portée d'engueulade, une expression qu'on a beaucoup entendue derniers temps. Les habitants viennent vous voir, vous disent ce qu'ils voudraient pour la ville, vous prenez des notes. Comment ça se passe ? Il y a des réunions publiques, des réunions d'appartements ?
Alors, je pense vraiment qu'en particulier aujourd'hui, dans un climat quand même de défiance vis-à-vis de la politique de manière générale, c'est cet échange et ce contact privilégié qui font finalement la richesse de ce qu'on veut construire ensemble. Donc, nous avons pris un engagement, c'est qu'on ne fera pas de la vieille politique, comme on dit souvent, à savoir l'idée selon laquelle il y aurait quelques politiques qui, dans une salle, décideraient d'un projet et attendraient gentiment ensuite d'aller le présenter en demandant à la marge l'avis aux habitantes et aux habitants. Non, nous voulons vraiment que la co-construction elle commence dès la construction de notre projet. Donc, dès les premières idées qui jaillissent, parce que moi, je crois profondément en l'intelligence collective. Alors, pour cela, on a mis une politique volontariste sur notre projet. Donc, on a lancé, bien sûr, une campagne qui est une campagne de terrain avec la possibilité sur notre site internet, donc roxanelundi2020.fr, de permettre à tout le monde d'organiser une réunion d'appartement chez lui, donc il suffit de remplir ce petit formulaire et je viendrai à votre rencontre parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que la proximité. Cela en plus bien sûr de notre présence sur les marchés du centre-ville et d'Argentine le samedi et le lundi et de notre permanence qui est ouverte maintenant aux 13 rue des Gros. Je lance un appel, vous pouvez venir nous voir, vraiment on est là, on est présent pour nous poser toutes vos questions. Et puis dans les jours qui viennent pour construire ce programme, nous allons avoir les lundis du projet et puis des rendez-vous
là,
de la vie.
Là il y a un petit jeu de mots Roxane, là, oui. Les lundis du projet.
Les lundis du projet, tout à fait. Eh bien tous les lundis, il y aura des réunions pour discuter du projet que nous voulons construire ensemble.
Alors ce qu'on remarque Roxane Lundi dans de nombreuses villes de France, c'est que les jeunes adultes ont beaucoup de mal à rester dans la ville où ils ont grandi. Quelle politique mènerez-vous pour aider les jeunes à rester à Beauvais, une ville qu'ils aiment ?
C'est vraiment une excellente question parce que c'est ça tout le cœur de l'interrogation que nous avons dans le projet que nous sommes en train de travailler. Vous voyez, le nom de cette liste d'Union de la gauche et des écologistes, c'est « Osons l'avenir ». Nous ne l'avons pas choisi par hasard, ce nom. C'est aussi parce que tout l'enjeu, c'est de réussir dans un climat souvent voilà de défiance ou même de cynisme pour certains, de réussir à créer cette envie d'avenir. Je pense que c'est essentiel. Donc la question de l'attractivité de notre ville pour la jeunesse, elle est au cœur de ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes qui ont grandi, qui sont nés, qui ont évolué dans Beauvais, fassent le choix de rester dans cette ville et tout simplement qu'ils décident d'apporter au quotidien, par leur engagement, par leur travail, leur pierre à l'édifice, dans ce que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire cet avenir. Alors, pour la jeunesse, tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin de toutes ces forces vives, nous avons besoin d'être aujourd'hui une ville attractive. Donc une ville attractive, c'est une ville qui développe les conditions de pouvoir d'achat de la jeunesse, mais aussi qui, par son bien-vivre, par son vivre ensemble, par la transition écologique que nous sommes en train de construire, apporte des réponses aux priorités qui sont celles des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui aspirent à avoir une maison ou un appartement et qui cherchent en tout cas ces loisirs pour leur ville.
Il faut davantage encadrer les loyers. Est-ce qu'il faut construire de nouveaux logements sociaux ?
Alors, se pose la question bien sûr de la construction des logements sociaux et de l'encadrement, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, d'une certaine manière, du pouvoir accéder à un logement.
Beauvais respecte la loi SRU à ce niveau-là ?
Beauvais respecte la loi SRU. Il y a juste une chose quand même à avoir en tête et je tiens à le souligner, c'est que il y a une forte mobilisation ces derniers jours, qui s'appelle Un toit pour tous dans notre ville, parce que nous nous battons contre le fait que nous avons des enfants qui vivent encore à la rue. Nous avons encore 14 enfants qui vivent à la rue à Beauvais. Je vous laisse imaginer le froid aujourd'hui. Je vous laisse donc imaginer les conditions dans lesquelles ils se retrouvent. Alors maintenant, un gymnase vient d'être ouvert, qui n'est pas un gymnase pas spécialement confortable, mais qui permet au moins d'avoir un peu moins froid la nuit. Mais donc, ça en dit long aussi sur le manque de prise en charge et d'hébergement d'une partie de la population. Donc ça, c'est absolument central. Et ce que ça concerne, c'est pas seulement la question de la construction de logements privés supplémentaires, finalement. C'est aussi la question de la prise en charge de l'hébergement d'urgence. Donc, c'est sur ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et nous sommes beaucoup de militantes et de militants à nous retrouver sur le terrain, dans les maraudes, et tout simplement pour aider ces enfants qui n'ont pas de toit, ou pour venir en aide, en tout cas, à celles et ceux qui sont dans le besoin.
Roxane Lundi, que pouvez-vous nous dire sur les transports en commun et la circulation dans votre ville ? Est-ce qu'il faut augmenter la fréquence des bus, même si j'imagine que c'est peut-être du ressort de l'agglomération ou de la région ? Est-ce qu'il faut développer aussi davantage les pistes cyclables ?
Excellente question que celle des mobilités, parce que là, ça touche vraiment à que peut faire finalement au niveau local une municipalité pour véritablement développer un projet écologiste. Et donc, la question de la mobilité, elle est centrale là-dedans. Les pistes cyclables, aujourd'hui, sont souvent simplement des effets d'annonce. Ça a été le cas. Au niveau local, nous avons eu un plan vélo, enfin une charte qui a été annoncée, qui aujourd'hui n'est absolument pas budgétée et ne permet pas d'apporter des solutions à celles et ceux qui veulent véritablement utiliser le vélo comme alternative à la voiture. Ce qui n'est pas la même chose que l'idée de se dire qu'on va développer quelques pistes cyclables à la marge pour un usage récréatif et occasionnel. Pour véritablement prendre cela en jeu, il faut que maintenant les pistes cyclables aient un maillage suffisant pour faire en sorte d'être une alternative possible à la voiture.
Avec,
et il en est même pour les bus.
Avec une continuité de ces pistes pour qu'on ne soit pas en danger en allant... En roulant au milieu des voitures.
Tout à fait. Alors moi, j'ai une piste cyclable aux abords de mon appartement qui est tellement dangereuse qu'il faut réfléchir à deux fois avant de pouvoir l'utiliser. C'est aussi ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on crée des pistes cyclables sans discontinuité, avec un véritable maillage territorial qui permette de les utiliser? Et alors sur la question des bus, parce qu'elle est absolument primordiale aussi, c'est pas le même usage, mais c'est aussi des mobilités qu'il faut, enfin alternatives à la voiture qu'il faut développer. Il faut avoir en tête que aujourd'hui, là aussi nous avons eu des grands effets d'annonce de la part de la municipalité, mais à côté de cela, finalement, nous n'avons toujours pas une offre en termes de bus qui permette, par son amplitude horaire et par le nombre d'arrêts, la fréquence de ces arrêts, d'être véritablement une alternative.
Notamment alors, le week-end, j'imagine.
Notamment le week-end. Et alors moi, je cite souvent cette anecdote parce qu'elle m'a marquée. Mais on a eu un événement de campagne qui donc a eu lieu donc à Alaska, à Argentine, pour celles et ceux qui connaissent, avec un jeune qui est venu nous voir. Je lui dis, vous pouvez venir discuter ce soir, dans 4 heures, venir discuter. Donc de l'autre côté, à la Batwood, à Saint-Jean. Et ce jeune me dit, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas le permis de conduire. Je ne serais donc pas en mesure de rejoindre, après la réunion, mon logement et de rentrer chez mes parents. Voilà, ça c'est le genre de réponse que je ne veux plus entendre. Ça n'est pas possible dans notre ville.
Les jeunes ont la possibilité, je dirais, d'avoir des lieux pour eux à Beauvais?
Bien. Des lieux pour les jeunes, c'est une drôle d'expression, mais je l'apprécie.
Non, mais je dirais maison de la culture,
oui.
Y a des espaces qui sont dédiés dans certaines villes aux jeunes.
Non, mais bien sûr, mais c'est aussi ça, c'est que il faut déjà que les jeunes dans notre ville puissent se réemparer de l'espace public, de ce centre-ville où malheureusement il y a beaucoup moins de jeunes aujourd'hui, beaucoup trop peu, parce que c'est aussi ces facteurs, ils sont une source incroyable d'énergie, de dynamisme et de vie dans un cœur de ville. Donc déjà, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième, bien sûr, c'est les lieux de vie que nous voulons créer pour la jeunesse. Cela passe par l'émancipation culturelle, par les lieux de vie de culture, mais également par les lieux de loisirs, les lieux de sport, les activités associatives et sportives. Et donc, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous allons faire de grosses propositions qui arrive en janvier, que nous annoncerons à ce moment-là, pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir un accès au sport et à la vie associative qui se fasse sans prendre en compte les questions financières, parce que c'est absolument essentiel, sans condition de ressources, et leur permettre surtout de s'investir et d'avoir envie de rester dans notre ville.
Au début du mois, le président Macron a rendu hommage à une grande résistante française décédée à l'âge de 103 ans. Elle s'appelait Yvette Lundy, et elle était de votre famille. Elle était très engagée, en particulier auprès des jeunes. Le président Macron a dit que sa parole était un vibrant appel à la vigilance citoyenne. C'était un de vos modèles, elle vous inspire toujours?
Oui.
C'est une question
tante.
Un peu personnelle,
non, mais, bien
mais
sûr.
Qui concerne
mais,
finalement mais tous les Français.
Complètement, donc ma grande tante Yvette Lundy, elle était un modèle de courage et d'engagement incroyable. Et surtout, ce qui était fascinant, c'est qu'elle a toujours été dans la transmission. C'est-à-dire qu'il y avait son engagement personnel qu'elle a pu avoir dans la résistance. Et il y a le fait qu'elle n'a jamais voulu cesser de transmettre à la jeunesse pour lutter contre tous les discours de haine qui peuvent exister, et surtout pour appeler à la résistance citoyenne et à l'engagement. Et je pense que ces mots résonnent avec aujourd'hui encore plus de force, même alors que on le sait, l'extrême droite est au plus haut dans le pays, que Éric Zemmour est l'invité régulier d'une chaîne télévisée, qu'il en est même salarié, et que on voit chaque jour des digues qui tombent. Donc restons vigilants, ça elle le disait toujours, nous le faisons par esprit profondément républicain, comme elle le faisait, par amour de la République et par amour de la liberté. N'oublions jamais aussi que la liberté c'est une chose extrêmement précieuse pour la jeunesse et qu'elle doit être défendue à chaque instant.
Dernière question très rapidement, Roxane Lundy, si vous êtes élue en mars prochain, quel maire serez-vous pour Beauvais ?
Alors avant toute chose, je pense qu'être un bon maire pour une ville, c'est d'abord être un bon citoyen. Donc avant toute chose, je pense que je voudrais être une très bonne citoyenne, c'est-à-dire être engagée dans la vie de la collectivité, mais surtout se mettre au service d'eux. Et ça, je pense que c'est essentiel, à savoir être à l'écoute et de manière humble, savoir se mettre personnellement au service de causes qui sont décidées collectivement. Et c'est aussi pour ça, quand je parle de co-construction du projet qui peuvent avoir lieu, je pense que c'est important que ces décisions, nous les prenions collectivement et qu'après, dans une relation de confiance et d'écoute mutuelle, on arrive à faire en sorte de mettre la municipalité au service du projet qu'on aura construit ensemble. Donc j'espère être en tout cas un bon serviteur de la cause que nous aurons construite ensemble.
Merci Roxane Lundy. Je rappelle que vous êtes candidate de l'Union de la gauche et des écologistes au municipal à Beauvais. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.